La grande table. Le rendez-vous du médiateur.
Il est là, Bruno Denas, bonjour.
Bonjour Olivia Jesbert, bonjour à tous.
On va parler philosophie aujourd'hui avec votre invitée Adèle Vendrette, qui est la productrice des chemins de la philosophie sur France Culture chaque jour à 10h. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dit? Et dire qu'Adèle a le record international et mondial de tous les podcasts du monde.
Adèle Vendrette, bonjour.
Bonjour, bah là je suis mal à l'aise forcément.
Bonjour Olivier.
Non, mais moi j'avoue que ça me fait un peu plaisir aussi parce que j'avoue qu'au milieu de protestations, de récriminations, qui soyons honnêtes peuvent être justifiées bien sûr, quel plaisir de recevoir également des messages d'auditeurs heureux de ce qu'ils écoutent. Marie par exemple nous écrit à propos de votre émission sur le cerveau des philosophes. Quel vrai bonheur d'entendre des gens aussi intelligents, clairs et ouverts. Bravo pour le choix des invités, tellement différents de ceux qu'on a l'habitude d'entendre. Alors plusieurs auditeurs se demandent comment vous dénichez les invités intelligents et clairs, donc comme ils disent, et comment se prépare une émission sur la philosophie.
Alors je précise que le cerveau des philosophes, c'était le titre d'un débat qu'on a animé à la Sorbonne. À quoi ressemble le cerveau des philosophes? Et cette émission, je pense que cette auditrice fait référence, c'est pas un thème qu'on aborde comme ça, le cerveau des philosophes, qui aurait pas trop d'intérêt. comment se prépare une émission sur la philosophie? Bah, comme toute émission quotidienne, comme La Grande Table, toutes les émissions que vous entendez ici chaque jour et sur les autres chaînes, avec énormément de travail, avec une équipe très bien constitué, c'est évidemment un travail collectif. Et puis en ce qui me concerne, pour les chemins de la philosophie, le travail ne serait rien sans un certain goût et une certaine curiosité pour des sujets aussi divers que variés. Je crois que c'est ça qui m'anime vraiment dans cette émission, sans mauvais jeu de mots, c'est de ne rien exclure a priori. Tout donc, peut être intéressant.
Vous lisez beaucoup
Je lis beaucoup, oui, et encore une fois, je suis aidée pour toutes ces lectures. Mais c'est pas tant les lectures qui me donnent des idées que une certaine humeur, un certain goût, selon l'air du temps, selon une forme d'actualité, même si je parais complètement déconnectée de l'actualité, je propose pas la semaine sur la virilité pour rien à ce moment-là. Pour les jeux vidéo, pareil. Voilà, c'est plus un ancrage dans l'air du temps qui me fait penser que voilà, tel thème serait bien abordé à tel moment, tel philosophe aussi, selon le contexte. Quand on parlait de Voltaire après les attentats contre bien Charlie sûr. Hebdo, par exemple, on a beaucoup parlé du traité sur la tolérance. Voilà, il s'agissait de montrer ce qu'il y avait vraiment dans un texte qu'on brandissait sans forcément le lire.
Alors Olivia, voilà, je donne le chiffre, plus de 3 millions de téléchargements pour l'émission d'Adèle donc par mois, record absolu. Comment expliquer un tel succès autour d'une matière qui n'est quand même pas la matière la plus simple?
Alors je tiens à préciser qu'en direct, mes chiffres sont vraiment, pour le coup, beaucoup plus bas que ceux de la grande table, hein, quand même, que les choses soient claires.
Hein, c'est si gentil jamais, de faire
le match. Bah ouais, mais bon, c'est non, vrai. Non. Pourquoi, comment expliquer le succès? C'est ça votre question?
Ben voilà,
je pensais bien que si j'avais la réponse, je serais pas là en train de vous en parler.
La philo, c'est pas facile quand même.
Je serais productrice, je serais éditrice, enfin, je m'arrangerais pour vendre la recette et m'enrichir. Non, j'ai aucune idée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je m'arrange pour faire tous les jours la meilleure émission possible. Et c'est pas facile parce que c'est tous les jours, c'est une émission quotidienne, on n'a pas une semaine pour la préparer. Mais je vis chaque émission comme une fin en soi. Du début à la fin, de la première seconde à la dernière. Donc ça crée un moment d'intensité que je trouve très stimulant, très créatif aussi. Vous dites la philo, c'est pas facile. Mais enfin, rien n'est facile. Hein. Les mathématiques, c'est pas facile.
Non, mais
la vie, c'est pas facile.
On garde tous un très mauvais souvenir. Enfin, pas tous, c'est un grand un nombre ouais. des profs de philo qu'on a pu avoir ou des cours de philo qu'on a pu avoir en terminale. Où c'était quand même terrible.
La philosophie ne se réduit pas à l'exercice de la dissertation qu'on enseigne en terminale. Il y a une manière de faire de la philosophie qui n'est pas de procéder par une introduction, une argumentation, une thèse, une antithèse et une synthèse, et qui est de déceler dans cette discipline ce qu'elle est aussi le goût pour le questionnement, qui nous anime tous, le fait d'interroger des choses qui nous paraissent évidentes. À partir de là, la philosophie, je parlais de transversalité, se trouve dans le monde en général, c'est-à-dire que je ne fais pas de différence à ce titre.
Tout est philosophie.
Entre la philosophie, la littérature et le cinéma. Un film pose des questions, au même titre qu'un philosophe pose des questions, au même titre qu'un roman pose des questions, que certaines musiques également interpellent. C'est ça qui m'intéresse. C'est ce qui fait ce que nous croyons connaître, mais que nous ne connaissons pas si bien. À partir de là, c'est pour moi un gouffre dans lequel j'aime sauter avec allégresse.
Alors, est-ce que c'est pas aussi un phénomène de mode, la philo?
On le dit beaucoup. Je crois qu'il y a une demande, évidemment supérieure pour les ouvrages de philosophie par rapport à, disons, 10 ans, 20 ans, etc. Mais je crois que cette demande, paradoxalement, elle repose sur un malentendu. On se réfugie vers la philosophie pour apprendre à mieux vivre, pour essayer d'être plus heureux. Or, il n'en est rien, il suffit d'avoir ouvert un livre de philosophie pour comprendre que s'il y a bien une personne qui ne détient aucune réponse, c'est le philosophe. Simplement, il nous apprend à les poser. Donc, si vous voulez, si on parle de mode de la philosophie et que ça repose sur un malentendu, ce que je crois, eh ben, tant mieux, servons-nous de ce malentendu pour faire passer un peu en contrebande ce goût du questionnement-là. Et le but étant, c'est un but quand même d'accepter une forme de lucidité. Nous n'aurons pas toutes les réponses, mais déjà, apprendre à formuler ces questions, on passe un bon moment à le faire.
C'est important.
Bruno, il y a juste 30 secondes pour évoquer une question d'un auditeur à oui. Adèle, à laquelle elle aura la chance de ne pas avoir le temps de répondre.
C'était la question d'André qui m'avait beaucoup amusé et interpellé au moment des élections. Quel pourrait être un débat entre deux candidats à la présidentielle, un kantien et un spinoziste? Vous avez 10 secondes.
Le kantien dirait que c'est l'intention qui compte. Hein. Il aurait pour slogan « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité toujours comme une fin et jamais comme un moyen », une phrase qu'on n'entendra jamais dans la phrase d'un homme politique. Et le spinoziste dirait tout ce que vous n'avez pas envie d'entendre, vous n'êtes pas libre, la liberté n'est que l'ignorance des causes qui vous déterminent, mais agissez selon votre désir. Ce qui est pas mal aussi.
D'habitude, on a 4 heures pour rédiger tout ça. Merci Adèle Vendrette, donc productrice des Chemins de la philosophie. On vous retrouve demain à 10h.
Merci beaucoup Bruno, merci Olivia.
Et on s'en réjouit. Merci beaucoup d'être passé autour de cette grande table. Merci à vous Bruno Denas. Les auditeurs peuvent continuer à réagir et à vous écrire sur votre site médiateur.radiofrance.fr.